راديو
ليبرتاريا
89.4
راديو التحرري 89.4
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Si la balle m'aida, si mi vida se va, maradme, caliados a la tierra. Las balas Bras de had, es inútil hablar, ningún héroe es el caído. De tiempos futuros será forjador, ansiaba la paz, no la guerra. Bajadme callados a la tierra.
Si une balle me frappe, si ma vie s'en va, portez-moi en terre, en silence. Laissez les mots, il est inutile de parler. Celui qui tombe n'est pas un héros. Il forgera les temps futurs. Il désirait la paix, pas la guerre. Si une balle me frappe, si ma vie s'en va, portez-moi en terre, en silence.
De tiempos futuros será forjado, ansiaba la paz, no la guerra. La bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Les Muses s'amusent en visite au Panthéon, troisième partie. Les Muses s'amusent, les femmes au Panthéon.
Ce soir, nous allons continuer notre exploration du Panthéon, mais cette fois-ci, nous descendons d'un étage, nous descendons dans la crypte du Panthéon, le lieu où sont donc enterrés tous ces grands hommes. Bon, finalement, la République française... Bonne fille a finalement compris qu'il y avait des grands hommes et qu'il y avait peut-être aussi des grandes femmes. Et on a donc commencé à enterrer des femmes. Avant de parler de personnages pour la plupart méritants ou méritantes, je voudrais parler des personnages infiniment moins méritants qui sont enterrés dans cette crypte et que tout le monde oublie avec justice. Les généraux, les colonels de Napoléon. Car quand Napoléon prend le pouvoir, comme vous le savez, c'est une constante dans l'histoire française, les gens qui veulent unir la nation. Napoléon veut donc unir les catholiques et les révolutionnaires, mais il veut en même temps célébrer sa propre gloire. Donc il décide que le Panthéon reste une église, mais qu'il reste aussi une nécropole. Mais tant qu'à faire comme c'est son régime, il y enterre les grands dignitaires de son régime. Quelques-uns civils, en particulier des juristes, des magistrats, mais surtout, bien entendu, ses généraux, ses colonels, etc. Alors évidemment, de toute cette engeance abominable, nous ne dirons pas un mot, si ce n'est que, franchement, moi je trouve qu'il y a des égouts pour ça.
Mais alors dis donc, Sainte-Geneviève,
oui.
Elle est enterrée où ?
Alors Sainte-Geneviève, fort heureusement, il y a eu un épisode de l'histoire de France qui fait partie des épisodes que nous aimons bien à Radio Libertaire, qui sont les épisodes révolutionnaires. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle la montagne Sainte-Geneviève. On avait conservé le corps de Sainte-Geneviève, ou en tout cas ce qu'on a cru être le corps de Sainte-Geneviève, et il était enterré dans un petit oratoire en haut de ce qu'on a donc appelé la montagne Sainte-Geneviève. Et puis, l'église Sainte-Geneviève a été construite au-dessus de cet oratoire. Le bâtiment que nous appelons maintenant le Panthéon a été à nouveau construit là-dessus. Seulement, voilà. Pendant la Révolution française, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On a compris que l'Église catholique est une infamie et qu'il faut donc s'en débarrasser. Et l'une des choses que vont faire les révolutionnaires, ils vont détruire toutes les reliques. Les reliques en France, désolé, elles sont en gros toutes fausses et absurdes, puisqu'on les a quasiment toutes détruites pendant la Révolution, dont bien entendu le corps de Sainte-Geneviève. Ce qu'il reste maintenant dans l'Église Saint-Étienne-du-Mont, c'est à mourir de rire, c'est même pas la châsse, ce sont les pierres qui entouraient la châsse. Et je parle pas du sarcophage, non, c'est vraiment des pierres. Et il y a encore des gens qui viennent écrire dans le livre d'or de Saint-Étienne-du-Mont, remerciement à Sainte-Geneviève pour le vœu exaucé. Je crains malheureusement que la stupidité humaine ne soit un facteur relativement éternel, peut-être le seul facteur éternel de tout l'univers. Nous avions donc dans la crypte des tas de gens dont on ne parlera pas parce qu'ils ne méritent pas qu'on parle d'eux. Et puis nous avons des gens qui, en revanche, méritent qu'on parle d'eux ou d'elles. Car effectivement, Emmanuel, cédant à la pression, on va dire, populaire, a finalement accepté de panthéoniser une femme, et en plus, une femme noire. Joséphine Baker. Joséphine Baker... On pourrait se demander pourquoi une simple chanteuse a été panthéonisée. Alors, qui est Joséphine Baker ? Elle naît aux États-Unis, dans une famille noire et un peu hispanique sur les bords aussi, donc évidemment abominablement pauvre. Seulement, voilà, elle a la chance d'être une excellente danseuse et plutôt une bonne chanteuse. Elle a été repérée, pas simplement par les gens qui aiment les chanteuses, elle a été repérée par la gente masculine, puisque son premier mariage a lieu quand elle a 13 ans. Son second mariage aura lieu quand elle aura 16 ans. En tout cas, elle réussit, alors qu'elle est encore toute jeune, elle n'a pas encore 20 ans, elle réussit à être recrutée pour être emmenée en France. Et là, en France, elle va connaître un succès fabuleux, qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Bien entendu, quand elle va se produire dans les deux premières revues qui vont la rendre célèbre, il y a un côté sexuel. Elle est quasiment nue dans les deux cas. Dans le deuxième cas, elle ne portera qu'un pagne de banane, donc on pense bien évidemment que quand elle danse vigoureusement, les bananes se soulèvent. Ma foi, les yeux des spectatrices et des spectateurs peuvent se réjouir de certaines parties de son anatomie. Tout le monde se réjouissait de ses seins qui étaient nus. Donc, Josephine Baker sait pertinemment qu'une partie de son succès est due à la vision raciste de la femme noire comme une femme entièrement sexualisée, encore plus que les autres femmes. Mais ce qu'il y a de bien avec Josephine Baker, c'est que dès le départ, eh bien, elle va se servir de cette célébrité plus ou moins bien gagnée pour faire des tas de choses intéressantes. Alors même qu'elle n'était encore que simplement une danseuse très connue, eh bien, elle va déjà commencer à utiliser une partie de ses gains, je parle donc des années 30, pour soutenir des orphelinats, des associations qui s'occupent d'enfants, etc., vu qu'elle, elle avait connu une enfance extrêmement difficile. En tout cas, donc, elle devient très célèbre. Tout le monde se souvient de sa chanson.
Plastiquement, elle était vraiment très belle.
Très belle, avec un visage merveilleux. Et plusieurs photographes ont fait des photographies d'elle absolument magnifiques. Elle est très célèbre entre les deux guerres. Elle adore la France, pour une raison extrêmement simple. Elle est née dans le sud des États-Unis. Donc dans le sud des États-Unis, avant 1964, règne encore la ségrégation. Ça prétend être une démocratie, mais désolé, il y a des citoyens qui sont nettement moins citoyens que d'autres. Et donc, pour une jeune femme noire, le sud des États-Unis, c'est pas rigolo du tout. Entre la menace omniprésente du viol, les humiliations, le fait qu'on ne peut pas aller dans tel ou tel endroit, le fait que la quasi-totalité des carrières intéressantes vous sont interdites, bien entendu, arrivée en France, même une France où il y avait certainement encore une bonne dose de racisme, eh bien, c'était bien entendu une énorme libération. C'est aussi la raison pour laquelle tant de jazzmen et women, mais surtout des jazzmen états-uniens, sont venus en France pour se libérer.
Il faut dire une chose, c'est qu'elle était très exotique, et tous ces musiciens, chanteurs, chanteuses, etc., c'était aussi l'exotisme, donc ça gommait un peu le racisme.
Exactement. Donc elle adore la France. À ce point que, eh bien, elle va demander la nationalité française, qu'on va la lui accorder. Manque de chance, au moment où elle est donc devenue une star franco-française, eh bien, arrivent les fois saintes de la France qui arrivent dans les pays de manière pas très gentille. Ils n'ont pas été invités, c'est le moins que l'on puisse dire. Et Josephine Baker, qui pourrait profiter de son passeport américain pour fiche le camp et revenir aux États-Unis, où elle aurait été quand même nettement plus en sécurité, eh bien, elle décide de rester en France. Et elle ne décide pas de rester en France simplement parce qu'elle s'y sent bien. Elle décide de rester en France parce qu'elle prend contact très vite avec la résistance. Bon, et puis il faut le dire, bien que ce soit Radio Libertaire, avec des gaullistes. Josephine Baker, c'est une gaulliste de la première heure. Et elle avait un grand avantage pour la résistance. Comme elle était une star internationale, et que même les nazis, malgré leur racisme abominable, jusqu'à un certain point, aimaient quand même bien la reluquer, eh bien, ils la laissent voyager. Et donc, elle pourra aller, par exemple, à Lisbonne, et elle va emmener à Lisbonne, dans son soutien-gorge, une liste d'espions allemands en Grande-Bretagne, qui servira beaucoup à l'Intelligence Service. Donc elle va rendre des services absolument énormes à la résistance, en courant évidemment les mêmes risques que toutes les résistantes et tous les résistants. Si les nazis avaient compris ce qu'elle faisait, eh bien c'était alors non pas le viol, parce que les nazis avaient ceci, le Rassenmischung, le mélange des races, c'était pas bien du tout. Donc pour un SS ou un membre de la Gestapo, violer une juive ou violer une noire, c'était pas acceptable officiellement. Je sais pas si ça s'est pas fait très souvent, ça c'est autre chose. Enfin officiellement, ils le faisaient pas. Mais donc, en tout cas, elle rend ses services absolument énormes à la résistance. Et donc, De Gaulle lui-même va la décorer. Et elle se servira de son statut, à la fois pour défendre l'égalité des races aux États-Unis. Elle va revenir en particulier aux États-Unis au moment de la grande marche sur Washington avec Martin Luther King. Et elle dira, c'est la première fois que je me sens libre sur le sol des États-Unis. Donc vraiment, elle a fait des bonnes choses. Et puis, elle va se ruiner en achetant un domaine et en l'en rendant très beau pour des enfants qu'elle recueille. C'est ce à quoi elle va consacrer le restant de sa vie, à élever des enfants qui viennent d'un peu partout sur la planète, qu'elle va appeler sa tribu arc-en-ciel. Sans oublier de continuer à avoir une vie particulièrement intéressante du point de vue sexuel, car elle était bisexuelle. Elle a été une amante de Colette. Bon, j'imagine que Colette n'était plus toute jeune et qu'elle, elle était encore toute jeune. Elle a été l'amante de Frida Kahlo. Et puis, du point de vue hétérosexuel, elle a été une amante de Simenon, une femme fort intéressante, et qui est donc la première femme noire panthéonisée. Alors, puisqu'on parle d'une femme noire, on peut parler également du seul noir panthéonisé, qui est Monsieur Félix Éboué. Il est né à Cayenne, en Guyane, dans une famille d'orpailleurs et qui s'est bien servi de l'argent qu'ils ont gagné. Donc ils ont réussi à s'élever un petit peu dans la société. Et surtout, le bon Félix Éboué est un élève brillant. Comme on sait, le racisme français a cette caractéristique qu'il s'atténue considérablement quand on parle bien français. Ma grand-mère maternelle est née en Guyane. Elle était couleur chocolat à 85% de cacao. Les lettres que j'ai lues de ma grand-mère sont merveilleuses. Elle parlait un français magnifique. Pour dire des conneries, mais bon, ça c'est autre chose. Donc ma maman parlait un français magnifique. Et pour ma part, j'aspire à parler un français correct. En tout cas, étant moi-même métisse et dans ma jeunesse ayant une tête nettement plus foncée qu'aujourd'hui, eh bien, je sais que le bon français est une arme contre les racistes. Alors, pour revenir à Monsieur Éboué, donc après ses études brillantes, qu'est-ce qui s'ouvre à lui comme carrière? Il réfléchit et puis il se dit, finalement, curieusement, il va entrer dans l'administration coloniale. Et je pense pour essayer d'en corriger les travers, et d'être plus proche des préoccupations, non pas des blancs colonisateurs, mais de tous les noirs et autres colonisés. Il va être très compétent, et il va donc monter en grade, et il deviendra gouverneur du Tchad. Alors surtout, il est gouverneur du Tchad en juin 1940. Comme vous le savez, le 18 juin 1940, De Gaulle lance un appel à la BBC, à la radio de Londres, et coup de chance, Éboué l'entend. Éboué est tout de suite d'accord avec ce qu'affirme De Gaulle. Il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'affirme Pétain. Il est gouverneur du Tchad au 18 juin 1940 et il va rendre un énorme service à De Gaulle parce que tout d'un coup, De Gaulle, qui n'avait pas grand-chose, se retrouve quand même avec un grand territoire qui est déjà le Tchad. Et puis Éboué va réussir à convaincre les autres gouverneurs des colonies françaises en Afrique équatoriale de se mettre du côté de De Gaulle. Et Churchill lui propose de le financer. De Gaulle dit bien entendu oui, mais il dit également « c'est un prêt à intérêt, à taux commercial, et nous vous rembourserons au rubis sur l'ongle ». Et dès le 26 août 1944, quand De Gaulle officiellement prend le pouvoir en France, le remboursement des prêts anglais à la France libre commence, et en 1946, tout a été remboursé. C'est quand même un aspect assez rigolo de l'histoire de la France libre, qu'elle a été financée par Churchill.
Il faut quand même souligner que Churchill et De Gaulle étaient de la même classe.
Churchill de l'aristocratie friquée anglaise et De Gaulle de l'élite réactionnaire monarchiste française, bien entendu. Alors après Joséphine Baker et Félix Éboué, il y a un demi-noir, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, fils d'un officier, alors lui, noir de chez noir, évidemment descendant d'esclaves, très bon officier, et Alexandre Dumas, un peu métissé, même pas mal métissé, dont je me suis toujours demandé pourquoi diable Chirac a voulu le mettre au Panthéon. Bon, Alexandre Dumas était quelqu'un de plutôt gentil, avec des opinions plutôt très bien. Par exemple, Alexandre Dumas vend la majeure partie de ses biens en 1860 pour armer Garibaldi. Garibaldi qui combattait pour l'indépendance italienne. Enfin, quand même, qu'est-ce que fout Alexandre Dumas au Panthéon? Je me le demande.
Un petit commentaire. Chirac, dans la foulée, il a donné la Légion d'honneur à Poutine.
Bon, bref.
Nous sommes au Panthéon, hein, je le rappelle.
Nous sommes au Panthéon. Eh bien, nous continuons à parler des Noirs et de leur relation avec la France. Alors, quand même, tout n'est pas si noir, puisque nous avons deux personnes bien. Un abbé, dans tous les abbés catholiques, qui a été bien. L'abbé Grégoire. Donc, ce prêtre de campagne qui va convaincre la Révolution française, un, de donner le statut d'égalité, enfin de rendre les Juifs, qui étaient juste là, interdits sur le territoire français, même s'ils y étaient quand même, il en fait des citoyens français. Et puis surtout, il fait en sorte que la Révolution française libère les esclaves. Oui, mais il y a un petit salopard qui, 10 ans plus tard, arrive au pouvoir, un peu corse sur les bords. Et Napoléon est Bonaparte. Une fois qu'il est au pouvoir, il veut à nouveau se concilier tout le monde, mais surtout tout le monde d'important. Les esclaves libérés, ils ne sont pas importants, mais les planteurs très riches, ça c'est important. Et donc cette ordure de Napoléon remet les esclaves en esclavage. Ce qui est quand même l'un des pires crimes, à mon sens, commis dans l'humanité.
Mais Joséphine, elle ne faisait pas partie de ces planteurs riches?
Ah ben exactement, Joséphine était évidemment une créole d'une famille qui avait essayé de redorer son blason sur le dos de ses esclaves noirs dans les colonies françaises. Et il va falloir attendre. Eh bien, la révolution de 1848, puisque comme par hasard, ni Louis XVIII, ni Charles X, ni Louis-Philippe ne se préoccupe une seule seconde du sort des esclaves. Et c'est donc le pasteur protestant, alors après l'abbé Grégoire, eh ben c'est un pasteur protestant. De temps en temps, il faut bien que sur les millions de chrétiens, il y en ait bien eu deux bien. Eh bien, Victor Schœlcher va donc pousser la révolution de 1848 à décréter enfin l'abolition de l'esclavage dans l'intégralité des territoires français ou coloniaux français, et en particulier en revenir à cette notion très simple, que si vous êtes un esclave, eh bien, dès l'instant où vous mettez le pied sur le territoire français, vous n'êtes plus un esclave.
Mais vous êtes un indigène.
Tous ces gens-là ont bien mérité, sinon de la patrie, en tout cas de la liberté. Merci Monsieur l'abbé Grégoire, merci Monsieur Victor Schœlcher, merci Joséphine Baker, et même ce gaulliste déboué, merci quand même à lui, ils ont quand même bien travaillé pour la liberté. Puisqu'on avait commencé cette liste avec une femme, Joséphine Baker, eh ben c'est le moment de parler des femmes au Panthéon. En réalité, les toutes premières femmes au Panthéon, c'est pas la peine d'en parler, c'est des épouses. Oui, parce que chacun sait les épouses, ça compte pas. Hein, on est bien d'accord.
Non, mais c'est normal, c'est bobonne.
Ah, exactement, c'est bobonne. Mais la première femme panthéonisée pour ce qu'elle a fait, et non pas parce qu'elle est l'épouse de quelqu'un, il y a l'ironie que c'est pas une Française, c'est une Polonaise. Tout le monde le sait qu'elle est Polonaise, n'empêche que mine de rien, en France, on l'appelle toujours Marie Curie. Ben non, désolé, c'est Marie Slodowska Curie, donc une Polonaise extrêmement douée, extrêmement intelligente, qui réalise quand même que à l'époque où elle vit, donc la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les études pour les femmes en Pologne, c'est très moyen. Je rappelle que la Pologne était et est toujours, hélas, un pays extrêmement catholique, donc c'est pas très facile. Alors que ben, ça commence un petit peu à se débloquer en France. Donc elle fait des pieds et des mains pour qu'on puisse l'envoyer en France, et en particulier avoir une bourse pour étudier en France. Elle l'obtient, elle devient physicienne, elle est une très bonne physicienne, et puis un jour, eh ben, on la met dans le même laboratoire qu'un monsieur qui s'appelle Pierre Curie, et ils vont donc travailler ensemble, et comme vous le savez, ils vont en particulier découvrir la radioactivité de tout un tas de matériaux. Seulement voilà. Il et elle ne savaient pas que la radioactivité, c'est ben gentil, mais ça ne fait pas que du bien. Alors ils vont d'abord trouver des applications pratiques très utiles de la radioactivité, en particulier ben, les radiographies, l'art d'utiliser les rayons X pour savoir ce qu'il y a dans le corps. Et c'est la raison pour laquelle Marie Curie est vénérée à ce point. Seulement voilà, ça veut dire qu'ils manipulent tous les jours des quantités insensées de matériaux radioactifs, Et c'est de ça dont mourra Marie Curie. D'abord son mari, puis elle ensuite.
Marie Curie avait une sœur qui également avait fait des études.
Bien entendu, hein, famille fort intelligente et pleine de volonté. Mais alors, tellement radioactif que deux choses. L'une, que beaucoup de gens savent s'ils ont visité le tout petit et très mignon musée Curie dans l'Institut Curie, d'ailleurs sur la montagne Sainte-Geneviève, juste derrière le Panthéon. Et quand on visite ce musée, eh bien, on s'approche du carnet de notes de Marie Curie. Seulement ce carnet de notes, désolé, il est sous verre. Encore aujourd'hui en 2022, il est encore radioactif, chacun sait que la radioactivité n'en déplaise aux avocats des centrales nucléaires, eh bien ça a une caractéristique, c'est que ça dure très très longtemps. Et vous avez un compteur GGR que vous pouvez saisir et que vous pouvez approcher du carnet de Marie Curie et le compteur GGR, il s'affole parce que c'est encore radioactif. Et ce qu'on sait moins, Marie Curie elle-même, son corps, premièrement, il est complètement momifié parce qu'il n'y a pas de bactéries qui sont venues la bouffer. Tellement son corps est radioactif. Et justement, ce corps est tellement radioactif qu'il est dans un cercueil, eh bien, complètement entouré de plomb pour ne pas contaminer les visiteurs du Panthéon. Et alors, une dernière petite chose sur ben justement les visiteuses et les visiteurs du Panthéon. Eh bien, il y a toujours une flopée de Polonais. Les Polonaises et les Polonais en visite à Paris vont en deux lieux, c'est absolument obligatoire pour eux, la tombe de Chopin au Père-Lachaise et la tombe de Marie Curie au Panthéon. Et donc, on voit sur cette tombe très souvent des drapeaux polonais ou des bouquets, alors ça c'est très très slave et polonais, des bouquets de fleurs aux couleurs du drapeau polonais, blanc et rouge. Alors, c'est pas que je sois fan des drapeaux, je trouve même que tous les drapeaux, y compris le drapeau noir, ce sont des torchons. Mais enfin, en ce moment, des bouquets de fleurs bleues et jaunes, c'est pas non plus une mauvaise idée, même si, à nouveau, les nations, c'est une chose lamentable.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
On continue quand même sur nos femmes, avec trois femmes fort intéressantes. Alors la première, et toutes les femmes françaises lui doivent une fière chandelle. Alors à nouveau, c'est un peu bizarre, on est en train de dire des choses bien de gens gaullistes et de gens de droite, mais enfin bon, faut être honnête. Simone Veil, alors pas W mais V, Simone Veil, comme vous le savez, Cette femme d'origine juive, et qui, parce que d'origine juive, eh bien, a été envoyée quand elle avait 15 ans en camp de concentration, sa famille y est morte, elle a eu quand même la chance de survivre.
Sa sœur aussi.
Voilà, sa sœur aussi, femme fort intelligente. Eh bien, les femmes discutent d'avortement. Et Simone Veil, contre toute attente pour un député de droite, Simone Veil prend fait et cause pour la liberté de l'interruption volontaire de grossesse. Et elle défend ça de manière célébrissime, notoire, et on va l'insulter dans tous les sens et tous les azimuts. Alors, pute était l'insulte la moins ignoble, mais assassin, meurtrière, nazi. Hein, on l'a traité de nazi, merveilleux, d'une femme qui avait survécu au camp de concentration. Fort heureusement, et bien malgré tout, l'interruption volontaire de grossesse va être légalisée en France. Je rappelle qu'en ce moment, aux États-Unis, comme Trump a mis toute une série d'ordures dans la Cour suprême, le droit à l'avortement aux États-Unis est extrêmement menacé. Les États les plus conservateurs trouvent tous les moyens possibles et imaginables. En particulier, ils disent si on entend les battements du cœur du fœtus, eh bien on ne peut plus avorter. Aller faire la différence entre les battements de cœur du fœtus et les battements de cœur de la mère.
Enfin, il faut dire une chose aussi, c'est que par rapport justement, puisque tu parles des États-Unis, déjà depuis fort longtemps, il y a les médecins qui pratiquaient les IVG, même à Chicago, qui n'est pas particulièrement extrémiste de ce côté-là, eh bien, ils avaient des gilets pare-balles.
Bien entendu, voilà. Alors, gilets pare-balles, fil de fer barbelé, je rappelle, bon, tout le monde le sait, hein, les États-Unis sont un pays où les armes sont légales, où les gens sont armés jusqu'aux dents, où ils n'arrêtent pas d'avoir des, ce qu'ils appellent des mass shootings, dans des tueries de masse. Là, en 2022, il y a bien une cinquantaine de personnes qui sont déjà mortes dans des tueries dont maintenant on ne parle plus parce qu'il en arrive chaque semaine. C'est un mort, deux morts, trois morts, cinq morts, dix morts. Bien entendu, vous avez les enfants. Alors ça, c'est classique aux États-Unis. Il y a à peu près 200 morts par an parce qu'il y a un enfant qui prend le flingue de papa. Mais tant pis pour eux, malheureusement, il y a tant d'innocents qui meurent à cause de cette législation imbécile. Pour en revenir à Simone Veil, les femmes françaises lui doivent une fière chandelle. Par conséquent, les femmes européennes aussi, parce que la France a été un peu pionnière là-dedans. Bien entendu, il y avait déjà d'autres pays qui pratiquaient l'IVG. Puis on se souvient qu'il y avait des départs en quart pour, si je ne me trompe, la Hollande ou l'IVG.
La Grande-Bretagne,
la Hollande.
La Hollande, également la Belgique, également la Suisse.
Mais la Suisse.
Et puis, une chose que personne ne sait, c'est que au Maroc, c'était toléré.
Ah, tiens.
C'était dans les années 60.
Au moins, c'était plus ensoleillé qu'à Amsterdam.
Et c'était surtout moins cher, parce qu'il fallait avoir quand même des sous. Ça n'est que vraiment après que les IVG pratiquées par aspiration, des choses comme ça, donc dans les pays du Nord.
Après Simone Veil, il semblait, du point de vue de tas de gens, que ça y était. Avec Simone Veil, on avait la dernière grande française à panthéoniser. Ce qui, évidemment, n'était pas exactement l'opinion de beaucoup de Françaises, qui ont continué à hurler. Et là, on a eu une palinodie avec Macron, puisqu'il a voulu à ce moment-là dire « mais on va faire partie égale, on va panthéoniser deux femmes, mais pour maintenir l'égalité, on va panthéoniser deux hommes aussi ». Or, les deux hommes sont des gens très bien, des résistants, il n'y a rien à dire. Mais bon, ça a été un peu ridicule de la part d'Emmanuel, mais enfin bon, Emmanuel et le ridicule, ma foi, il y est grandement habitué. Alors, qui sont les deux femmes panthéonisées ? Alors, à nouveau, deux femmes résistantes, une de droite, une de gauche. Et il les a trouvées, parce qu'évidemment, il y en avait. Alors la femme de gauche, c'est Germaine Tillon. Germaine Tillon, communiste, ethnologue, et qui a fait partie de ce groupe absolument remarquable qui s'appelait le groupe du Musée de l'Homme, et qui était donc les ethnologues du Musée de l'Homme. Par définition, les ethnologues, ils savent que les cultures sont relatives. On trouve quand même relativement peu d'ethnologues nazis. Et ils se rendaient bien compte, ils parlaient très souvent parfaitement allemand, que le nazisme était quelque chose de très dangereux. Donc, le premier groupe de résistance non militaire sous l'occupation, c'est le groupe du Musée de l'Homme. Le premier groupe de résistance, mais c'est un peu compliqué, ce sont les services secrets français, qui se sont sentis un petit peu écartelés entre la fidélité à Pétain. Ah oui, c'était quand même le chef de l'État.
Auquel il fallait prêter allégeance
et serment. Donc ils ont tous été obligés de prêter serment à Pétain. Sans ça, ils ne pouvaient plus être officiers dans l'armée française. Et eux-mêmes...
Et juges.
Voilà. Un seul a refusé, exactement.
Un seul a refusé.
Et donc, les services secrets sont très embêtés. Et c'était quand même très souvent des gens de droite. mais ils se sont quand même rendus compte que même s'ils aimaient bien Pétain, ils n'aimaient pas les communistes, bien entendu, ils se sont quand même rendus compte que, quand même, le bon côté, ce n'était pas exactement du côté de Pétain. Et donc, ils vont quand même fonder le premier réseau de résistance. Et le deuxième est fondé par des amateurs, les ethnologues du Musée de l'Homme. Dans le groupe du Musée de l'Homme, c'est 90% des gens d'origine étrangère. Donc des gens pour qui le relativisme des cultures, ben c'est très personnel. Le gars qui a le premier l'idée, c'est un Russe, qui à la fois a fui le bolchevisme, mais qui n'en est pas pour autant un Russe orthodoxe abominable, il veut que le tsarisme revienne. Donc c'est quelqu'un qui sait très très bien ce que ça veut dire que d'être un étranger, que d'être un persécuté. Germaine Tillon en fera partie. Manque de chance, ils étaient tous et toutes de très bons ethnologues, mais dans la lutte clandestine, pas terrible. Et donc, les deux gangsters, Bonnie et Lafont, enfin Bonnie c'était le gangster complet, Lafont il était juste et policier et gangster, un infiltré. Et ils vont donc malheureusement détruire ce réseau, et Germaine Tillon en sera l'une des seules survivantes. Et puis la femme de droite, eh bien c'est Geneviève de Gaulle. Évidemment, de la part de Macron, c'était le nom, hein, c'était une manière d'être gentil avec les gaullistes. Geneviève de Gaulle a été une vraie résistante, absolument authentique, pas seulement parce qu'elle était la nièce de Gaulle, et puis elle va se faire arrêter, donc elle va se faire envoyer entre autres à Ravensbrück, mais là son nom va un peu la sauver parce que Himmler, en 1944, se rend compte que les carottes sont cuites, et il se dit « il va me falloir une monnaie d'échange ». Et donc il va prendre quelques prisonniers ou prisonnières intéressants à ce titre, qu'il va préserver pour essayer de sauver sa peau. Donc en gros, son idée c'était « j'ai Geneviève de Gaulle, donc je vais écrire à de Gaulle, ou je vais contacter de Gaulle en lui disant « écoute, si tu veux que ta nièce soit sauvée, tu me sauves, tu me donnes un passeport et tu me laisses aller en Argentine ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais en tout cas, pour Geneviève de Gaulle, ça a été tout bénéfice puisqu'elle a survécu. Et elle va faire quelque chose de très bien. Elle va quand même utiliser sa notoriété, son prestige, le fait d'être la nièce de Gaulle, pour aider une association qu'on connaît qui s'appelle Aide à toute détresse Quart-Monde. Alors à nouveau, je dirais que nous les anarchistes, on préfère la révolution à la charité. Enfin que tant que la révolution n'est pas arrivée, quand même s'occuper des gens très très pauvres, c'est quand même une bonne idée. La Geneviève de Gaulle, elle relève le niveau de sa famille, nous allons dire.
Nous n'étions que des femmes entassées dans le noir. Je regardais le ciel barbelé sans éther. Le wagon à bestiaux coulait vers l'abattoir. J'avais faim, j'avais soif, épuisée par l'enfer. Tchou 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 tchou, tchou 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 tchou, un train peut t'en cacher un. Chair brûlée, étudier le système est le meilleur remède pour gommer la douleur de l'inhumanité. Tchou 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 tchou, un train peut t'en cacher un autre. Germaine, tu nous as appris que celui de la mort. Cuisine imaginaire qui nous redonne le goût.
Radio Libertaire, les muses s'amusent.
Puisqu'on parlait de résistance, on va parler du résistant le plus célèbre, Jean Moulin. Jean Moulin, c'est un jeune préfet, brillant, et quand les nazis débarquent en France, il est préfet à Chartres. Et là, le chef allemand du CRU, qui constate qu'il y a des troupes africaines, donc des nègres, alors ce qu'il voudrait, c'est prendre ces nègres et puis les fusiller tous, puisqu'ils sont prisonniers. Alors, pour justifier de fusiller tous ces nègres, il voudrait que Jean Moulin, préfet, certifie que les 10 nègres ont violé des Françaises en long, en large et en travers. Jean Moulin, tout à son honneur, refuse absolument d'entrer dans la combine. L'Allemand le menace et, pour ne pas subir le déshonneur d'être abattu par les Allemands, eh bien, Jean Moulin tente de se suicider. Fort heureusement, il se rate. Et puis, il va vouloir quitter cette abominable France pétainiste et rejoindre De Gaulle en Angleterre. Alors effectivement, il réussit à rejoindre De Gaulle. De Gaulle le remarque, remarque son énergie, son intelligence, mais aussi son sens de la diplomatie. Et De Gaulle, il avait un problème. C'est que la résistance française, elle était française, donc c'est bien connu, vous mettez 2 Français dans une salle, il y a 3 partis politiques dans cette salle. Donc les réseaux de résistance se sont quasiment immédiatement positionné du point de vue politique. Donc, on ne collabore pas ensemble. Du point de vue politique, et même aussi, il faut l'admettre, du point de vue religieux. Il y a eu des réseaux de résistance, ma foi, très efficaces, catholiques. Il y en a eu de protestants. Et donc, le problème, c'est de coordonner tous ces gens-là, de les unir. Alors, il y avait à la fois un peu la mégalomanie de De Gaulle, il y avait aussi le simple souci d'efficacité. C'est pas le moment de se disputer, on a un ennemi commun, il faut qu'on coordonne nos activités. Pour être très franc, quel va être l'instrument de Gaulle et donc de Jean Moulin pour unir les réseaux de résistance? C'est très simple, le fric. Un réseau d'activités de résistance, malheureusement un réseau d'activités terroristes aussi. Prenons une chose très simple. Si vous voulez pouvoir échapper à la police du pays occupé, il vous faut des appartements partout. Bon, un réseau de résistance digne de ce nom, il faut qu'il ait 50 appartements. Dans une ville comme Paris, mais attendez, 50 appartements, ça coûte une fortune. Je ne dis pas acheter, je dis allouer, 50 loyers. En plus, vos clandestins, s'ils sont clandestins, ça va être compliqué qu'ils gardent leur travail. Bon, il faut les nourrir, les vêtir, les soigner, il faut payer leurs déplacements. Les 10 déplacements, tout ça, ça coûte très cher, parce qu'il faut faire ça de manière discrète. Donc, un réseau de résistance, ça coûte une fortune. Alors, les réseaux, entre guillemets, terroristes, ou franchement terroristes, se financent assez souvent en faisant des cambriolages. Bien entendu, les réseaux islamistes s'autofinancent jusqu'à un certain point, mais en réalité, très souvent, c'est curieux, il y a de l'argent qui vient du Qatar, etc. Pour la résistance, d'où est venu l'argent? Des Britanniques. Puisque De Gaulle était financé par Churchill, et donc De Gaulle dispose d'argent, il le propose aux différents réseaux de résistance qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est Jean Moulin qui fait le tour de tous les chefs de la résistance et qui leur dit, écoutez les gars, ce serait patriotique que de s'unir. Ah ouais, mais on n'aime pas De Gaulle, il veut jouer au dictateur. Et Moulin leur dit, écoutez, c'est pas compliqué. Là, moi, j'ai beaucoup d'argent, je résous vos problèmes financiers, mais en échange, vous suivez la politique commune. Et Jean Moulin va quand même, en gros, réussir à faire en sorte que la résistance non-communiste se coordonne sous De Gaulle et que même la résistance communiste accepte de se coordonner avec De Gaulle. Manque de chance, la Gestapo et l'Abwehr ne sont pas des amateurs et en plus, bien entendu, ils disposent des collabos français qui parlent français, qui comprennent la mentalité française, qui connaissent bien l'histoire française, les gens, etc. Et donc, malheureusement, la Gestapo et l'Abwehr savent en gros quel est l'organigramme de la résistance française. Ils savent très bien qui est Jean Moulin et quel est son rôle, et bien entendu, ils le pourchassent. Et puis en 1943, pas de chance, ils réussissent à arrêter Jean Moulin. Ils savent exactement qui il est. Ils savent qu'il connaît tout le monde parmi les chefs de la résistance. Donc si Jean Moulin parle, ça va être un coup terrible à la résistance française. Donc vous imaginez qu'il torture Jean Moulin de manière absolument abominable. on a un témoignage d'un résistant prisonnier qui a vu Jean Moulin être traîné, il était incapable de se tenir debout, hors de la salle de torture, et il a dit que c'est l'une des pires choses qu'il a vues de sa vie, que vraiment le pauvre Jean Moulin a dû subir un enfer abominable pendant 2 semaines. Mais là, les Allemands ont exagéré, ils se sont tellement déchaînés sur le pauvre bonhomme qu'ils l'ont tué, tout simplement. Et donc Moulin va mourir, et à son très grand honneur, il va mourir sans avoir parlé. Pain béni, et en 1964, alors mine de rien quand même, un an avant l'élection présidentielle que de Gaulle n'était pas si sûr de gagner, eh bien, il panthéonise Jean Moulin. Et là se passe un moment dont beaucoup de gens se souviennent, Malraux, André Malraux, fait un discours. Alors ce discours, il est à la fois sublime et ridicule. Il est ridicule parce que Malraux utilise une voix absolument stupéfiante. Alors tu m'excuses Christiane, mais là il faut que j'imite la voix de Malraux. Et attention, mon imitation ne va pas être exagérée, c'est une imitation réaliste. « Entre ici Jean Moulin avec ton cortège. » Alors le vibrato que je suis en train de faire, c'est exactement le vibrato auquel se livre André Malraux. Mais le texte en revanche, il faut reconnaître, est absolument magnifique. C'est vraiment très très émouvant. Donc cette cérémonie est restée dans les mémoires. Et c'est la raison pour laquelle, bien plus tard, en 1996, Malraux lui-même va être panthéonisé. Alors là, manque de bol, il n'y a pas d'écrivain qui réussit à faire un discours sur Malraux aussi magnifique. Donc la cérémonie de panthéonisation d'André Malraux n'a strictement aucun intérêt. Et puis Malraux lui-même, on sait que Malraux, c'est un drôle de bonhomme, c'est quelqu'un d'extrêmement vaniteux. Et puis, quand il est tout jeune, il veut se faire une gloire et il va voler des antiquités cambodgiennes, hein, littéralement voler, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il se passe des tas de choses pendant la jeunesse d'André Malraux, qui est l'entre-deux-guerres. Et là, quand même, il va faire deux romans magnifiques, Les Conquérants sur la révolution communiste en Chine à l'époque, et L'Espoir sur la révolution qu'on aime bien ici, la révolution espagnole. Et puis, il va quand même se dire, allez, il faut quand même que j'y aille. Donc, il va entrer dans les brigades internationales et il va être pilote pendant la guerre civile espagnole. Alors, pas pilote de chasse, il n'était pas assez bon pilote pour ça. Pilote soit de petits bombardiers, soit d'avions de transport. Mais bon, il est quand même allé risquer sa peau pendant la guerre civile. Et puis, arrive la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Et pendant un bon bout de temps, il ne fait strictement rien. Puis je pense que, un, la culpabilité le ronge. Deux, il comprend que la victoire est à peu près assurée et que bon, c'est quand même, à nouveau, ça serait une bonne idée d'être du bon côté. Et donc finalement, on va le retrouver dans les FFL, les Forces Françaises Libres, puis dans l'armée française rétablie comme armée gouvernementale de l'État français. Là aussi, quand même, il faut reconnaître, il va risquer sa peau jusqu'à un certain point. C'est comme ça qu'il va devenir colonel. Alors, hein, c'est un petit peu un colonel à la promotion un peu rapide, mais c'est pareil quand même, De Gaulle avait compris que Malraux, c'était malgré tout un grand écrivain, et que d'avoir Malraux comme gaulliste, c'était bien utile pour lui. Bon, et il va mal terminer, Malraux, comme on sait, gaulliste de droite, lamentable, et on a cette image ridicule, comme vous le savez, de la grande manifestation gaulliste qui a marqué la fin de mai 68, donc le 30 juin 1968, Et on a cette photo où on voit un vieux con, Malraux, avec un vieux con, Michel Debré, tous les deux un peu bousculés, mais en train de croire que ça y est, ils réécrivent à nouveau l'histoire, mais dans cette manifestation lamentable qui a donc signé la fin de mai 68.
Oh, je voudrais tant que tout ça devienne des jours heureux et la misère finie. Emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble, je les assassine, l'Argentine, nous survivons tous deux ensemble, tu les fous en l'air sur le port d'Anvers, mais le cri ceux qui baisent tout doucement en faisant du bruit, et le temps ne saurait effacer le pas des amants tous unis. Thank you.
Alors passons à des gens un peu plus réjouissants que Malraux. Puisqu'on parle de grands écrivains, il y en a quand même une flopée dans le Panthéon. Le tout premier panthéonisé, Voltaire. Bon, Voltaire, c'est quelqu'un de très bien parce qu'il a quand même tapé sur l'Église catholique de manière absolument brillante. Il a fait beaucoup rire et comme on sait, l'une des armes les plus révolutionnaires qui soit, c'est l'humour. D'un autre côté, Voltaire, c'était un bon bourgeois, déiste et non pas athée. L'esclavage, ça lui posait pas beaucoup de problèmes. Et les pauvres, quand même, c'était des gens qu'il fallait tenir en laisse. Il y a quand même quelque chose de scandaleux avec l'anticléricalisme de Voltaire, c'est que c'était un anticléricalisme pour les gens bien élevés, les gens éduqués. Il a écrit noir sur blanc qu'il ne fallait pas totalement détruire l'Église catholique parce qu'elle était quand même bien utile pour tenir en laisse les pauvres. Mais lui, donc, il est panthéonisé 10791 et on ne l'en a jamais viré, au contraire de Mirabeau et Marat. Autre écrivain panthéonisé pendant la Révolution, un peu plus tard, Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau, Suisse, mais que la France annexe avec allégresse et qu'elle panthéonise principalement à cause du livre qu'il a écrit du contrat social. C'est une fiction, mais il le dit quand même lui-même, Rousseau. Il n'y a pas eu de moment où des hommes tout faits, des hommes, pas des femmes, se réunissent et posent un contrat social ensemble. Enfin, mine de rien, quand même, ce livre a été extrêmement important, en particulier aux États-Unis, où les fondateurs, les écrivains de la Constitution américaine vont se servir des idées de Rousseau. Je rappelle que les 10 écrivains de la Constitution états-unienne n'étaient pas si démocrates que ça. Très franchement, un, les Noirs, deux, les pauvres, c'était pas leur tasse de thé. Revenons-en.
Les Indiens non plus. Hein.
Les Indiens ? C'est qui les Indiens ? Donc, nous avons notre bon Rousseau, panthéonisé lui aussi. Et quand on est dans la crypte, c'est amusant, les tombes de Voltaire et de Rousseau sont l'une en face de l'autre. Le bon Voltaire aurait adoré être l'ami de Rousseau. Rousseau, complètement paranoïaque, a toujours refusé les avances de Voltaire, a dit des choses très méchantes contre Voltaire, et donc ils ne sont jamais devenus amis. On continue avec nos écrivains. Un écrivain à la trajectoire inverse des gens qui commencent bien et qui finissent mal. Victor Hugo a mal commencé, il a plutôt bien fini. Alors Victor Hugo, je vous rappelle sa trajectoire. Victor Hugo est fils d'un général napoléonien. D'ailleurs, il va écrire des poèmes pour se plaindre que le seul nom de général oublié sur la liste des généraux de l'Arc de Triomphe, c'est le nom de son papa. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, on n'a pas rajouté le nom du général Hugo, parce que sans ça, ça rendrait les poèmes absurdes. Et notre petit Victor Hugo, quand il est jeune, eh ben, c'est lamentable. Il écrit une ode à la gloire de Charles X, le plus con des rois de France.
J'ai lu les écrits de Victor Hugo par rapport justement à l'annexion de l'Algérie à partir de 1830 et il était tout à fait pour. On entend encore maintenant, hein, c'est resté dans les mémoires, c'est-à-dire que finalement, bon évidemment, il y a eu quelques excès, c'est sûr, mais des tueries de masse, mais on leur a apporté la civilisation.
Bien entendu. Si Victor Hugo n'avait pas évolué, Victor Hugo serait resté un sale con réactionnaire. Mais Victor Hugo, d'abord, il a une première qualité, il n'aime pas la peine de mort. Et ça, ça va lui rester toute sa vie. Ça va l'aider à avoir une meilleure trajectoire, parce qu'il se rend compte que ses copains réactionnaires, que son pote Charles X, que Louis-Philippe, qui le nomme père de France, ben c'est des salauds qui ne gracient quasiment personne. Alors qu'ils ont le pouvoir royal de gracier, eh bien Victor Hugo, qui lui, demande à chaque condamnation à mort, à chaque condamnation à mort, Victor Hugo écrit une lettre à Charles X, à Louis-Philippe, au président Louis-Napoléon Bonaparte. Donc à chaque fois, il demande, mais ne commettez pas ce crime abominable qu'est la peine de mort. Et il s'aperçoit qu'on l'envoie bouler. Ça va donc l'aider petit à petit à commencer à évoluer vers la gauche. Et puis, mine de rien, les pauvres, alors pas les pauvres algériens, mais les pauvres français, ça lui fait mal aux entournures, il se rend compte de ce que c'est que la misère. Ah, c'est pas pour rien qu'il va écrire Les Misérables. Quand même, il se rend compte que les gens de sa classe sociale à lui, les gens de l'idéologie de sa jeunesse, sont des gens qui n'ont absolument pas envie de se préoccuper du sort des pauvres. Et ça va donc pousser Victor Hugo petit à petit vers la République. Quand même une République bien bourgeoise, une République propre sur elle. Et en particulier, Victor Hugo ne va pas aimer du tout la Commune. Il va la fuir, il va la condamner, mais il ne va pas apprécier la répression sauvage qui a lieu après la Commune. Il aimait bien Louise Michel, et Louise Michel l'aimait bien. Et il va donc tout d'abord demander l'amnistie des communards en général et de Louise Michel en particulier. Et puis il va faire à Louise Michel un cadeau qu'il estime être un cadeau splendide. Il écrit un poème où il appelle Louise Michel « Viro Maior, un grand homme ». Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme, c'est de dire qu'elle est un homme.
C'est-à-dire que les hommes imaginent ça.
Voilà, non mais ça partait d'un bon sentiment.
Non, ça part pas d'un bon sentiment, ça part du patriarcat.
Donc Victor Hugo va demander l'amnistie des communards en général et de Louise Michel en particulier. Et puis quand même, c'est un très grand écrivain, c'est un très bon poète, c'est un très bon dramaturge. Et quand il meurt en 1885... les francs-maçons en profitent pour faire en sorte qu'il soit immédiatement panthéonisé et que donc ça visse définitivement le statut de cet édifice comme nécropole de la démocratie et non pas comme église catholique.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur, qu'avez-vous fait ?
Pardon mon brave, vous avez faim, vous déjeunez. Vous ne voulez pas être esclave, ni conduit par le bout du nez. Tout ça c'est bien et c'est d'un homme, mais si l'on moque, si mon ami, dès lors que nous pensons tout comme, vous devez l'être aussi. Comprends-tu ma logique? Et vive la République!
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant du. Au mur, qu'avez-vous fait?
Je suis des vôtres, je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû, pour échapper aux autres, rester 8 jours dans un placard.
Qu'avez-vous fait?
Oh, pas grand-chose, de la misère et des enfants. Il est temps que je me repose, j'ai 70 ans. Allons-y tout de suite et fusillez-moi vite.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur, qu'avez-vous fait?
Voici deux listes avec les noms de 100 coquins, femmes, enfants, de communistes. Fusillez-moi tous ces gredins.
Qu'avez-vous fait?
Je suis la veuve d'un officier mort au Bourget. Et tenez, en voici la preuve. Regardez, s'il vous plaît. Au moins, je porte encore mon brassard tricolore.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur, qu'avez-vous fait?
4 blessures, 6 campagnes et 2 congés. Je leur en ai fait voir de dur. Je suis Lorrain, ils sont vengés.
Moi j'étais dans une ambulance. Les femmes ne se battent pas. Et j'ai soigné sans différence fédérés et soldats. Moi je m'appelle Auguste et j'ai 13 ans tout juste.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur, qu'avez-vous fait?
Oh, je suis morte, un soldat sans doute enivré a tué mon père à la porte. Et mon crime est d'avoir pleuré.
Qu'avez-vous fait?
Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau, car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau. Et d'une, tu vois la lune. et de vive la commune.
Au mur, au mur, au mur, au mur.
Un autre écrivain, Émile Zola, dont on sait que la raison pour laquelle il a été vraiment panthéonisé, eh bien c'est son rôle dans l'affaire Dreyfus. Alors je rappelle très rapidement ce qu'a été l'affaire Dreyfus. Nous sommes dans cette période de la Troisième République où la France a été humiliée par sa défaite pendant la guerre de 1870. Et puis la France connaît une obsession qui est le retour de l'Alsace-Lorraine. La France rêve de la revanche. Et puis tout d'un coup, le contre-espionnage français s'aperçoit que les plans de l'arme terrible que la France a conçu, le canon de 75, ces plans ont été envoyés aux Allemands. Alors ils font une petite enquête et ils disent il n'y a que 5 officiers qui auraient pu envoyer ces plans. Et dans ces 5 officiers, il y a un juif. Donc par conséquent, c'est lui le coupable. Ils arrêtent l'enquête et ils arrêtent le pauvre officier juif Dreyfus, qui n'est pas coupable et qui, dès le départ, clame bien haut qu'il est innocent. C'est pas grave, il est juif, on a le coupable, on l'envoie au bagne après une cérémonie terrible aux Invalides où il est dégradé en face de ses collègues et pour une bonne partie de la France, c'est lui le coupable. On s'aperçoit que les fuites continuent, donc ça peut pas être lui. Et puis surtout, le chef du contre-espionnage change et le nouveau chef du contre-espionnage découvre le vrai coupable qui, comprenant qu'il a été découvert, se suicide. C'était un officier d'origine hongroise, Esterhazy. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'était bien Esterhazy qui était coupable et non pas Dreyfus. Alors le chef du contre-espionnage dit « Bon, ben, faudrait peut-être gracier le pauvre Dreyfus, il est innocent. » Et là, la hiérarchie de l'armée française, antisémite jusqu'au tréfonds, dit « Mais ce serait terrible, ce serait diminuer le prestige de l'armée française, nous avons besoin de ce prestige pour la revanche, il n'est donc pas question de gracier Dreyfus. » Par chance, un ami juif de Dreyfus, Bernard Lazare, entend parler de tout ça et dit « Mais c'est un scandale, il faut donc libérer Dreyfus. » Et le pauvre Bernard Lazare recherche ce qu'on appellerait aujourd'hui un relais dans les médias. Coup de chance, il le trouve avec Émile Zola, auteur déjà célèbre, et qui va prendre le risque personnel gravissime d'écrire pour le journal L'Aurore, qui hélas est devenu un journal frère du Figaro, mais enfin bon. Et il écrit son célèbre article « J'accuse ». Et là, démarre vraiment l'affaire Dreyfus qui va diviser la France de manière absolument brutale entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Il y aura des divorces, il y aura des assassinats, il y aura des bagarres dans toute la France. Et il faudra attendre 10 ans pour que justice se fasse et que Dreyfus soit gracié, qu'il revienne non pas même dans son grade, mais dans le grade qu'il aurait eu s'il avait bien eu 10 ans de carrière militaire. Et donc c'est la raison pour laquelle Zola est lui aussi au Panthéon. Donc finalement quand même, au Panthéon, il y a aussi des gens bien et surtout des femmes bien qui y sont enterrées.
La vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est un père enfin qui travaille des jours et quelquefois des nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qui la déshabille. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sort dont on ne sait pas où. Toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Chair à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Il fredonne et la Marseillaise, nos pères, les vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que des trangleurs ont dit depuis. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire à leurs ennemis. C'est la canaille, c'est la canaille, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Radio Libertaire, les muses s'amusent. Illustration musicale, Joséphine Baker chante « J'ai deux amours », chronique de résistance, chant des partisans, pour en finir avec le travail, une chanson détournée sur l'air des feuilles mortes, Serge Giroyo, Bruno Daraki, Christine Hudin, Natacha Esdra, au mur et la canaille.
Tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse. L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste gara la casse. Car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audaces. Certes, il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace. Qui fera dans le dos les cornes à ce gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place. Une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Je cherche la porte dorée dans des palais désorientés. Je porte la robe vermeille des divinités du soleil. Je tourne aveuglé dans des salles d'enseignes vertes en dédale. J'entends se déclencher des fêtes et des chansons sans demi-tête. Comme après un feu de diamant, tout est fini quand je descends. Je bondis vers des ruisseaux d'or qui coulent parmi les décors. Je tombe sur un lupanar de boîtes vides de caviar. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie. Rose bonbon, des macho girls et des faux anges s'unissent à des bêtes étranges sur des grands écrans vidéo qui tapissent les lavabos. Des poupées les barbies alcooliques prennent des cuites avec les flics. Dans des bars aux miroirs cruels, blancs comme des neiges éternelles. Des cracheurs de feu amateurs, milliardaires à faire mal au cœur. Offrent des slips aphrodisiaques à des impresarios cardiaques. Et des garbos rafistolés prennent des airs de nouveau-nés. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie rouge bonbon. Des eunuques noirs et fardés présentent des plats parfumés. Mais quand je vais pour les manger, il n'y a que cailloux. Tous les jours un amant m'appelle sur des lits de satin bleu ciel. Si j'approche, il n'y a qu'un corps de sanglier mort ou de porc. Et je chancelle et je chavire dans cette espèce de délire. De spots et de bijoux fluo, de vertigo et de light show. Moi qui veux la porte dorée qui conduit à l'éternité. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie. Rose bonbon, d'un incendie, 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 rose bonbon.
Il y a des choses étranges qu'on nous en dit pas un mot, des machins qui les dérangent qu'on voit pas dans les journaux, et des histoires incroyables qu'on voit pas à la télé, des suppliques invraisemblables personne n'y croirait jamais. Mais je crois qu'on nous écoute, tais-toi, fais pas de barouf, enfonce bien ta moumoute, les gens sont devenus ouf. Il y a quelqu'un qui nous espionne, bouche cousue et motus, faut pas croire que je déconne, mais je n'en dirai pas plus. Y'a des cas catastrophiques que même les écolos, pour pas semer la panique, ils parlent pas dans les journaux, et des histoires dégueulasses qu'on peut pas imaginer, des trucs même au Texas personne n'y croirait jamais. Mais je crois qu'on nous écoute, tais-toi, fais pas de barouf, enfonce bien ta moumoute, les gens sont devenus ouf. Y'a quelqu'un qui nous espionne, bouche cousue et motus, faut pas croire que je déconne, mais je n'en dirai pas plus. Puis y'a des bidules horribles qui donne la chair de poule, des machins épouvantables, y'a vraiment plein de ma boule, des déviations sexuelles que même les gynécos savent pas comment ça s'appelle, y'a vraiment plein de dingos. Mais je crois qu'on nous écoute, tais-toi, fais pas de barouf, enfonce bien ta moumoute, les gens sont devenus ouf. Y'a quelqu'un qui nous espionne, bouche cousue et motus, pas que je déconne, mais je n'en dirai pas plus. Y'a quelqu'un qui nous espionne, bouche cousue et motus, faut pas croire que je déconne, mais je n'en dirai pas plus.
Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvre noce où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant monsieur le maire. C'est dans un charabeu, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les vieux amoureux firent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Cortège nuptial hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Voici le vent qui souffle emportant crève-cœur, le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voilà la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue, sur mon harmonica, jouant les grandes orgues. Tous les garçons d'honneur montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue et vive la mariée.
Si l'on gardait depuis des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs, crinière de nuit, toison de safran. Et les cheveux couleur de feuilles mortes, si on les gardait depuis bien longtemps, noués bout à bout pour tisser les voiles qui
vivant sur la mer. Il y aurait tant et tant sur la mer, tant de cheveux roux, tant de cheveux clairs, et tant de cheveux de nuit sans étoiles. Il y aurait tant de soyeuses voiles luisant au soleil, bombant sous le vent, que les oiseaux gris qui vont sur la mer, que ces grands oiseaux sentiraient souvent se poser sur eux les baisers partis de tous ces cheveux, baisers qu'on sema sur tous ses cheveux, et puis en allait parmi le grand vent, parmi le grand vent. Si l'on gardait depuis des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs. Crinière de nuit, toison de safran, et les cheveux couleur de feuilles mortes, si on les gardait depuis bien longtemps, noués bout à bout pour tordre des cordes, afin d'attacher à de gros anneaux tous les prisonniers, et qu'on leur permit de se promener au bout de leurs cordes. Les liens des cheveux seraient longs, si longs, qu'en les déroulant du seuil des prisons, tous les prisonniers, tous les prisonniers pourraient s'en aller jusqu'à leur maison, jusqu'à leur maison. Si l'on gardait depuis des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs. Les liens des cheveux seraient longs, si longs, qu'en les déroulant du seuil des prisons, tous les prisonniers, tous les prisonniers pourraient s'en aller jusqu'à leur maison, jusqu'à leur maison.
Quand ta âme tremble parce qu'il te ressemble. Quand tu sais que c'est lui qui pleure au cœur de la nuit, quand tu te lèves brûlant de fièvre, que ta main tremble, que savoir qu'il te ressemble. Tu sais que dans ses veines le sang est le même, le sang est le même. Quand tu coules, c'est le long tapis de ta vie qu'on déroule. Quand tu sais que c'est lui qui pleure au cœur de la nuit, quand il tousse son lit de mousse, quand il t'appelle, que toujours tu te rappelles. Souviens-toi que c'était lui, fragile au cœur de la nuit. Et quand un jour, du haut d'une tour, verra partir comme tout le monde sans rien dire.
Les Jacques, voici les rouges Pâques. De trop jeûner, nous sommes là. Prenons nos faux pour coutelas. Tocsin, tocsin, sonne le glas. Voici les rouges Pâques. Ding, ding, dong, les Jacques, voici les rouges Pâques. Les feux que nous avons boutés au pied des donjons redoutés, crépite dans l'ombre, écoutez, voici les rouges Pâques. Ding, ding, dong, les Jacques, voici les rouges Pâques. Partout l'incendie en passant, mais comme un coq resplendissant, sous sa crête couleur de sang, voici les rouges Pâques. Ding-dong, ding-dong, les Jacques, voici les rouges Pâques. Flambés castels et châtelains, femmes grosses et moines pleins, feu de Saint-Jean pour les vilains, voici les rouges Pâques. Ding-dong, ding-dong, les Jacques, voici les rouges Pâques. Nous qui semions tant pour autrui, hardis paysans, l'heure à lui de semer pour nous aujourd'hui, voici les rouges Pâques. Ding dong dong, ding dong, les Jacques, voici les rouges Pâques. Dans la nuit, au sombre sillon, semeurs de flammes éparpillons, ces coquelicots vermillons, voici les rouges Pâques. Ding, ding, dong, les Jacques, voici les rouges Pâques. Dans ce champ de coquelicots, le coq de feu sur ses ergots, claironne de cocoricot, voici les rouges Pâques. Ding, ding, dong, les les Jacques, voici les rouges Pâques. Nous prendrons quand nous serons là, leurs cadavres pour matelas. Tocsin, tocsin, sonne le glas, voici les rouges Pâques.
Radio Libertaire 89 ou 89.4, comme on dit en Suisse.
Radio Libertaria 89.4 FM, Radio de la Fédération Anarchiste.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio Bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaire 89.4, the radio without God or master.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio Bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria u Radio Libertaire 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 FM, radio bez Boga i bez gospodara.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária 89,4.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio
Libertária
89,4.
Rádio Tahariri 89,4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Tu viens cet après-midi à la crucifixion ? T'as qu'à venir avec moi, ça te changera les idées. Ta bergère est pas là, profite de l'occasion. Moi, j'ai prévenu Lévi que je prenais ma journée. Je lui ai dit, je veux voir ça. Et puis, j'ai mes raisons. Il a pas pu refuser, vu qu'il y va, ces Zig. Ça va ramener du monde et marquer la saison, cette affaire-là, tu vas voir. Mais le truc qui m'intrigue, c'est que sur les trois clients qui vont foutre au séchoir, il y en a deux, paraît-il, qu'on a dû bien connaître. Ils nous ont fait marrant sur un coup de marché noir, on ira les regarder. Ça les amusera peut-être. Quand on avait le tuyau pour les surplus romains, j'avais tout préparé. Tout marché la besogne, on était cinq sur le coup, c'était du cousu humain. Quand ils nous ont doublé, on a passé la pogne. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, je vais bien rigoler. Comme quoi, mon vieux cochon, il y a tout de même une justice. Comme disait mon vieux père, faut pas tuer ni voler, à moins d'être certain que le coup réussisse. Le troisième, il paraît qu'il marche à la gamberge. Il jacte à droite à gauche, on l'a vu venir de loin. Il est pas vieux du tout. Il a pas 35 berges, on sait pas bien qui c'est. C'est pas un gars du coin. C'est un genre de rebouteux, il guérit les malades. Ça fait 3 ans, guère plus, qu'il est sur le trimard. N'empêche que le pilote et ses petits camarades l'ont prié d'obéir et d'arrêter son char. Comme disait mon vieux père, la poisse, elle vient toute seule, mais plus tu veux jacter, plus qu'à venir rapidement. C'est d'une belle qualité de savoir fermer sa gueule. Mon père, pour un ivrogne, il manquait pas de jugement. D'ailleurs, en fait, jugement, c'est par là que ça commence. Si tu veux venir, tu viens. Moi, je veux pas me foutre en retard. Tu viens pas. Bon, je m'en vais, je te dirai ce que j'en pense. Je passerai pour l'apéro à 7 heures au plus tard.